exactement.
Oui, donc je pense qu'on aurait souhaité faire ce travail plus en commun, encore. Enfin, peut-être toi, moi pour sûr. Pas forcément eu le temps, la disponibilité, et puis la manière de savoir comment articuler nos deux métiers ensemble. Donc on s'est dit qu'on allait présenter, enfin qu'on allait alterner aussi. Et donc Claire qui présentera et présentera son travail. Et moi je me présenterai et je présenterai mon travail. Et puis dans un second temps, Claire reprendra la parole pour dire comment ce métier lui permet de rejoindre les patients à travers sa foi et comment ce métier-là l'impacte aussi dans sa foi et dans sa vie quotidienne. Et pareil, moi je reprendrai le relais aussi. Donc il y aura des ponts qui seront faits évidemment parce que on a une foi unie au Christ qui est l'unique et le seul Dieu. Donc il y aura des similitudes, mais il y aura aussi des spécificités dues à nos personnalités propres et à nos métiers différents. Voilà, donc à toi la parole.
Oh. Ah, super. Merci au départ.
Est-ce que tu veux boire de l'eau? Oui,
tu arrives à pic.
Vous n'avez pas commencé
en fait. Non, on a fait l'introduction.
T'as rien à présenter ou
à vous pas encore, on a juste explicité comment ça allait être. Quoi, mais...
ça va. Bon, du coup, je commence. Alors, Claire, donc, je suis ergothérapeute. Merci beaucoup à Pascal de nous donner l'occasion de parler. Et puis à Olivia, franchement, d'être venue. C'est vraiment super. Tu m'avais dit, quand j'en avais parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, tu m'avais dit, je suis sûre que tu as des choses à dire. Et moi, je ne pensais pas. Mais finalement, en travaillant, oui, il y avait pas mal de choses à réfléchir. Donc l'ergothérapie, comment j'y suis arrivée? En fait, c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir l'ergothérapie, parce qu'elle avait fait elle est vraiment descendue très bas avec un problème au niveau de son traitement, et donc elle a fait un mois au niveau de en réanimation, et elle s'est réveillée le lundi de Pâques, donc c'était un moment incroyable où on avait beaucoup prié Saint Jean-Paul II pour elle, et elle a vécu 8 ans après. Et donc elle est allée dans un centre de rééducation parce qu'elle avait vraiment tout à retrouver, et elle avait une ergo qui la voyait tous les jours, tous les jours, et qu'elle aimait beaucoup y aller. Enfin, vraiment, c'était un moment pour elle où elle appréciait vraiment ce qu'elle faisait. Elle avait repris le tricot, elle nous écrivait des lettres que l'ergo lui corrigeait, alors on recevait des lettres à la maison. Elle prenait vraiment plaisir à y aller. Et moi, j'avais 13 ans à ce moment-là, donc je cherchais un peu, je ne savais pas tout ce que je voulais faire. Et donc ma maman m'avait dit, mais peut-être que c'est un métier qui te plairait, parce que du coup on passait par les activités manuelles, et j'aime beaucoup ça. Et du coup, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, j'ai l'impression qu'elle aidait les personnes, et les personnes prenaient plaisir, en même temps, je trouve ça bien. Et après, j'ai gardé cette idée. Enfin, souvent, j'arrivais pas à retenir le mot. Alors, je dis, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Ah oui, c'est ça. Ergothérapeute. Bon, depuis, c'est bon, j'ai intégré. Mais c'était pas connu du tout. En fait, moi, j'avais jamais entendu parler. Donc, c'est vraiment grâce à elle que j'ai découvert le métier. Et après, donc, l'ergo est arrivé à la. Enfin, pour qu'elle puisse rentrer à la maison, l'ergothérapeute est venue chez mes grands-parents pour voir l'environnement, pour voir qu'est-ce qu'il fallait aménager. C'était vraiment la grande inspection. On avait très peur que l'ergo dise que ça allait pas, alors ils avaient tout aménagé, tout nettoyé. Donc je savais qu'elle avait une part importante pour rentrer à la maison, en tout cas, j'avais compris qu'il y avait un enjeu. Et puis après, j'ai toujours gardé cette idée. Et en arrivant à l'école, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus vaste que ça. Et donc l'ergothérapie, en fait, c'est le but. L'ergo, ça veut dire l'activité, et donc c'est la thérapie par l'activité. Donc la médiation, on va se servir de l'activité pour que les personnes puissent retrouver leur activité. C'est vraiment basé sur le quotidien, et donc on veut que les personnes elles puissent être le plus autonomes et indépendantes possible. Donc ça passe par qu'elles puissent s'habiller toutes seules, faire leur toilette toutes seules, gérer leurs courses, le budget, leurs relations. C'est vraiment tout ce qui touche au quotidien, tout ce qu'on fait au quotidien, ça va intéresser l'ergothérapeute et comment on peut aider la personne pour qu'elle puisse retrouver au maximum ses habitudes de vie, enfin, ce qu'elle avait l'habitude de faire avant le moment traumatique ou avant la maladie. Voilà, donc on est vraiment sur tout type de handicap. Et voilà, donc on travaille dans les milieux hospitaliers, dans les centres de rééducation, en libéral un petit peu, dans les lieux de vie, beaucoup aussi, dans les EHPAD, dans les foyers de vie. On peut travailler aussi, c'est moins développé, mais au niveau des services publics, enfin pour l'accessibilité, par exemple dans les villes, pour que les personnes puissent garder leur autonomie dans leurs déplacements. Là où on travaille. Ah, oui.
Est-ce que vous intervenez dans les entreprises?
Alors voilà, oui aussi. Moi, au niveau dans le milieu de travail, il y a des ergos qui sont rattachés à souvent c'est des grosses entreprises quand même. Pour tout ce qui est prévention des troubles musculo-squelettiques.
Oui, voilà, ne serait-ce que le fauteuil.
Oui. Ou adapter le poste de travail. Alors, soit ça passe quand on accompagne quelqu'un qui est à l'hôpital et qu'après il va falloir travailler la réinsertion professionnelle. Là, on peut aller sur le lieu du travail et adapter, voir qu'est-ce qui est possible de faire pour que ça soit pour qu'il puisse continuer son travail. Ça, c'est vraiment même une grosse partie, surtout au niveau des adultes, faut qu'ils puissent reprendre leur travail. Et après, oui, il y a du libéral aussi qui font on peut les appeler pour ça. Après, au Canada, c'est plus développé et ils font beaucoup plus de libéral où on peut appeler un ergo qui... En France, ça vient, mais c'est un peu plus lent. C'est pas le même contexte. Et puis, voilà. Et donc, on essaie vraiment de voir la personne dans sa globalité. On essaie de voir... C'est pour ça que c'est un peu le carrefour entre plein de métiers, finalement, entre beaucoup de métiers. C'est vraiment du paramédical et même du social. Et donc, on essaie de voir au niveau du contexte de sa famille, au niveau de son environnement, forcément de la maison, au niveau de son état aussi psychique. Enfin, est-ce que ça joue beaucoup de voir tout le contexte, parce que parfois, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Nous, on a notre volonté de qu'il aille mieux, qu'il fasse plein de choses, mais faut voir aussi dans quel contexte ça se trouve et quelles sont vraiment ses envies à lui, en fait. Enfin, on essaye de fixer les objectifs avec lui, dire qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui. Parfois c'est pas ce qu'on pense, en fait. Enfin, ça peut être des choses ce matin, bon, c'était différent, mais genre un patient, je fais tout mon bilan, voilà. Et puis à la fin je dis, d'ailleurs je devrais le faire au début, mais on dit quels sont vos objectifs à vous, quels sont vos projets. Et dit, moi, je veux vraiment remarcher pour aider ma femme parce que je sens qu'elle est épuisée. Et c'était vraiment pour ça qu'il voulait améliorer son état, quoi. Et je me disais, oui, en fait, il ne faut pas oublier sa femme. Enfin, voilà, c'est vrai qu'elle est aussi âgée que lui. Et souvent, c'est là qu'on... Bah, en fait, c'est les leviers, les meilleurs leviers pour que la personne soit motivée dans ce qu'elle fait. Vous avez peut-être des questions, c'est peut-être pas au niveau pour comprendre qu'est-ce que j'ai pu oublier.
C'est vrai que moi, une fois, je me suis retrouvée face à un patient qui avait mal au dos. En fait, c'était à cause de son fauteuil.
Ouais, voilà, ouais.
De bureau de travail. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a des ergos qui interviennent? Ouais. C'était pas vraiment une grosse entreprise. J'ai regardé sur internet,
oui.
Ergo du travail, je trouve un numéro, je vais lui refiler.
D'accord,
je
ne
sais
oui.
pas du tout
oui.
où ça peut mener, quoi.
Ouais. En libéral, quand même, il y a des ergos qui peuvent venir se déplacer, mais souvent le libéral, c'est quand même beaucoup pour les enfants, mais c'est sûrement à développer, à développer encore. C'est ceux qui ne sont pas qui sont pas forcément hospitalisés.
Il faut avoir beaucoup d'imagination pour faire son métier.
Faut avoir un esprit assez pratique, ouais, assez pour trouver des solutions, en fait, parce que souvent, dans les services, l'ergo c'est un peu le MacGyver de, en disant quand il y a un problème, l'être malade qui marche pas, on appelle l'ergo. Bon, après parfois on n'a pas plus de solutions que les autres, mais ou alors quand il y a un problème, enfin on dit ce patient là, voilà, il arrive pas du tout à faire telle chose, à faire sa toilette, forcément malin, on va intervenir, mais ça, c'est une grosse part du métier, c'est trouver des aides techniques qui soient adaptées pour qu'ils puissent continuer tout seuls. Des enfiles, des pinces à manches, Des choses, des vêtements adaptés avec des fermetures adaptées, les aides techniques à la marche, l'ambulateur qui soit. Après les kinés aussi font pas mal. et puis après tout ce qui est le matériel, vraiment les fauteuils roulants adaptés spécifiques, les commandes électriques, c'est un peu tout ce qu'on peut. En fait c'est vraiment du sur mesure. On essaye de faire un max du sur mesure.
Et du coup,
avec qui on travaille
pour fabriquer le sur-mesure.
On travaille beaucoup avec les revendeurs aussi paramédicaux. Parfois ils viennent avec leur matériel et nous on va régler le fauteuil. Sur un fauteuil, il y a plein de réglages possibles pour l'adapter. Du coup, on va. Oui, ça aussi, c'est une grosse part dans les hôpitaux aussi d'adapter, de régler le fauteuil à la personne, les accoudoirs, les cale-pieds, trouver des solutions quand il y a des personnes qui ont mal de dos. Et donc, avec les revendeurs médicaux, ils amènent le matériel et nous, on voit si ça correspond ou pas, s'ils peuvent trouver autre chose, si ça peut s'adapter parfois en changeant une pièce ou en adaptant le dossier. Donc, eux, ils nous donnent le support et après, on adapte. Ou alors on peut faire aussi fabriquer des orthèses, on moule une plaque sur la main, ça peut faire des choses qui sont plus adaptées à la personne, ou des mousses parfois qu'on découpe et qu'on installe aussi, on fait avec le matériel qu'on a. C'est pas des choses très très techniques, hein, on fabrique avec ce qu'on a aussi.
Et là, par exemple, j'ai une personne qui va être à qui on va commencer le soin palliatif à domicile. Mmh. Elle a découvert un cancer, elle est très âgée, mais bon pied, bon oeil. Mmh. Et du coup, ce sera probablement l'équipe de soins palliatifs à domicile qui fera appel.
Alors, parfois, il y a des ergos dans les équipes, mobiles, ouais, et qui viennent donner conseils au niveau du matériel, enfin, quel lit, quel matelas pour tout ce qui est prévention des escarres, quelle installation au lit si elle est vraiment grabataire, pour soulager les appuis, pour pas qu'il y ait de. Mais souvent, elle va intervenir à un moment T, elle va mettre en place les guidons, des choses pour aider à faire des transferts plus facilement. Elle va intervenir à un moment T, mais après, au niveau du suivi, parfois, ils viennent juste à l'entrée pour donner le matériel qu'il faut, et puis ça dépend au niveau du suivi. Moi, je sais que. Il n'y a pas forcément un suivi derrière, mais elle peut faire en sorte qu'il rentre avec le matériel qu'il faut à la maison. D'accord. Par contre, il y en a dans certaines équipes. Parfois, il y a des infirmières qui le font aussi, hein, qui font ça quand il n'y a pas d'ergo qui est fallu.
Et notamment les personnes qui sont Alzheimer à domicile. Ouais. Là, j'ai entendu parler d'équipes qui faisaient un bilan à domicile.
Oui, des ESA.
Et donc, il y a probablement des ergothérapeutes.
Oui. Alors, c'est des équipes spécialisées à Alzheimer. Et ça, les ergos, souvent, un chapeau de pareil. Normalement, ça devrait être l'ergothérapeute qui fait le suivi. Et en fait, c'est une équipe qui vient une fois par semaine, à peu près pendant 2 mois chez le patient, et qui font de la stimulation cognitive, qui travaillent là-dessus. Ça dépend des postes. Je sais qu'il y a un collègue qui est parti, qui est rentré dans une équipe comme ça et qui fait le suivi lui-même des patients. Donc là, c'est intéressant parce qu'il peut voir comment adapter la maison, comment mettre des étiquettes sur les placards pour pouvoir qu'il puisse retrouver, savoir où sont les ustensiles de cuisine, se repérer dans le quartier, voir au niveau de les dents, que les dents comprennent la maladie et qu'ils sachent comment réagir, pourquoi. Enfin voilà, que parfois il y a des choses. Les dents, il ne comprend pas forcément pourquoi son conjoint réagit comme ça, on peut expliquer. Donc ça, c'est l'idéal, il faut quand l'ergo peut faire le suivi. Mais souvent dans les équipes comme ça, c'est l'ergo qui va faire le bilan d'entrée, le bilan de sortie, et c'est des ASG, assistantes, c'est des aides-soignantes spécialisées en gériatrie, qui vont faire le suivi. Ça dépend des équipes. Mais c'est un bon ressource, au moins pour que les patients ne soient pas isolés. Qu'ils puissent avoir un lien, qu'ils sachent qu'ils peuvent rappeler que s'il y a besoin, enfin si ça s'aggrave, qu'on puisse les orienter peut-être vers un accueil de jour ou vers un EHPAD si ça devient trop difficile.
Ah oui, vous faites aussi pas mal de social.
Ouais, Dans les ESA, oui, on peut leur conseiller de monter un dossier APA. Bon, c'est vraiment pour la gériatrie, mais où là, on peut, c'est un dossier pour avoir des aides humaines, pour que les personnes viennent aider pour la toilette. On peut les accompagner, oui, s'il faut, pour monter le dossier. Ou orienter, puis après, c'est l'aide sociale, l'assistante sociale qui vient prendre le relais. Mais, voilà. Alors, et du coup, moi, ce que je fais, parce que, bon, je l'ai pas dit, je travaille en gériatrie, donc avec les personnes âgées, et j'ai un mi-temps en USLD, donc c'est unité de soins à longue durée, donc c'est un EHPAD médicalisé, et un mi-temps en hôpital de jour, pour des patients qui font des chutes à la maison, donc ont un peu des troubles au niveau de l'équilibre, et donc ils viennent pendant 2 mois, 2 jours par semaine, et on travaille vraiment pour qu'ils puissent après, ne plus avoir peur de chuter, ressortir à l'extérieur, voilà, qu'ils puissent retrouver une autonomie. Enfin, ne pas, enfin, quand il y a une perte d'autonomie, ça permet de les relancer. Et, du coup. En ergo, on travaille beaucoup sur l'équilibre, la prévention des chutes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la maison pour ne pas tomber ? Les tapis, les fils électriques, les marches, les rampes, la salle de bain. Et puis sur l'USLD, donc c'est plus voilà, un EHPAD, tout ce que je disais, les fauteuils roulants, on fait des groupes, de gymnastique, le jardinage un petit peu, on essaye, de cuisine. Ouais, voilà. Et puis après, quand les personnes sont vraiment alitées, on voit au niveau de la prévention des escarres. Voilà, l'installation au lit. J'ai bien parlé.
C'est drôle, c'est ça. Donc, Olivia, et moi je suis art-thérapeute. Alors, comment j'ai découvert ce métier ? Absolument pas comme toi. parce que c'est un métier qui n'existait pas, encore moins à mon époque. Dit à du haut de ses 30 ans. En fait, j'ai commencé, je voulais vraiment m'engager dans la médecine. Donc, j'ai fait 1 an de médecine. Je suis allée en bio, je suis revenue en médecine en me disant oui, c'est sûr, c'est ce que je veux faire. Et puis finalement, au fur et à mesure des concours, je me suis dit. Enfin, c'est pas pour moi parce que je n'arrive pas à faire tout ce qui me plaît et tout ce qui me correspond. Et puis aussi parce que j'avais eu des témoignages de grands frères, grandes sœurs, d'amis qui étaient internes dans différentes spécialités et qui m'ont dit « Mais en fait, tu ne travailles pas comme ça que la première année parce qu'il y a le concours, mais c'est que globalement, c'est un métier où tu t'investis pas mal. » Et donc, même si j'aimais beaucoup le côté intellectuel, scientifique, humain potentiellement dans les années futures, ça m'attirait, mais ça me comblait pas. Et donc ça, c'était la partie un peu difficile de mon discernement, parce que je savais ce que je ne voulais pas faire, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Et donc là, j'ai fait des listes en tout genre avec différents métiers, prof, psychologue, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, et notamment photographe. Et donc c'est le métier qui est ressorti suite à ces listes-là, suite à discussions avec mes proches, ceux qui me connaissaient bien. Et donc je m'étais engagée pour devenir photographe. La première possibilité, c'était de faire une école en alternance, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il fallait trouver une entreprise. Donc le plan B était de faire des études d'art. Et donc j'ai fait je me suis engagée pour commencer un master en art plastique. Et au cours de ce master-là, en fait, j'ai découvert l'art-thérapie par une amie que j'avais pas vue depuis longtemps et dont la maman est psychologue et m'a dit « Ah, mais t'as jamais pensé au métier d'art-thérapeute ? C'est génial, c'est fantastique. » Et effectivement, après ça, j'ai creusé ce qu'était le métier et ça rejoignait tout ce qui m'attirait en médecine et mon côté artistique. Et finalement, ça faisait vraiment le lien entre les deux avec, en plus, la dimension psychologique. Et donc j'ai poursuivi mes études en art plastique, j'ai fait de la philo en parallèle, et puis après j'ai intégré une école d'art thérapie, et j'ai fait un diplôme universitaire à la fac de médecine de Grenoble pour faire de l'art thérapie appliquée aux maladies aiguës et chroniques, et avec une dimension aussi recherche scientifique. Voilà. Voilà un peu le parcours. Donc pas du tout à l'âge de 13 ans avec une grand-mère qui a eu un art thérapeute. Un petit peu plus sinueux comme parcours, mais néanmoins je suis très heureuse aujourd'hui, et bien à ma place, Et donc pour expliquer un petit peu le métier, c'est pas si simple parce que c'est un métier qui est souvent mal connu, voire inconnu. En fait, pour je vais le faire très rapidement, schématiquement, il y a plusieurs manières de voir l'art dans le milieu du soin. Il peut y avoir des artistes qui vont intervenir dans les milieux de soins, et donc là, il y aura plutôt un but socialisant, voire divertissant, pédagogique, enseigner une technique artistique. Et donc il n'y aura pas de but thérapeutique. Il peut y avoir des bienfaits thérapeutiques, parce qu'a fortiori, si la personne qui intervient, l'artiste, est un peu bienveillant, normalement, il y a de bons effets sur les personnes et sur les patients. Mais il n'y a pas de but à part entière. Après, il va y avoir deux autres métiers où là, il y aura un but thérapeutique. Donc, il peut y avoir les psychologues qui vont utiliser l'art dans le milieu du soin. Et en fait, il y a aussi les ergots qui peuvent utiliser l'art. Mais bon, après, je reste sur mon schéma de trois. Donc, les psychologues vont utiliser l'art, mais dans un but de verbalisation derrière. Donc, ils vont être focalisés sur le symptôme. Et puis passer par le média artistique pour arriver à verbaliser des choses, ce que la personne aura plus de difficultés à faire sans média. Et donc là, l'art thérapie serait une forme de spécialité entre guillemets d'un métier déjà à part entière. Et enfin, la troisième catégorie dans laquelle je me situe, donc l'art thérapeute comme discipline à part entière. Donc là, il y a un but thérapeutique, avec un objectif thérapeutique. Et en fait, à la différence des psychologues qui sont focalisés sur le symptôme, nous, on va être focalisés sur ce qu'on appelle la partie saine, donc c'est-à-dire tous les mécanismes humains qui fonctionnent, qu'ils soient aussi bien physiques, moteurs, que psychiques, que relationnels. Et donc, on va se servir de toutes ces capacités préservées pour les mettre en avant et se servir comme levier thérapeutique, en fait. Ce qui fait que l'art-thérapie en fait va intervenir peut-être sur un schéma différent de l'ergothérapie, peut-être un peu plus vaste parce que nous on va aussi aller sur le plan psychique, sur l'estime de soi, qui va donner l'envie de guérir. Donc on ne fait pas, on fait du soin, on soigne, mais on ne guérit pas. Donc ça c'est vraiment une nuance importante en art-thérapie. Et donc on donne l'envie de guérir, on va raviver l'estime de soi de différentes façons. Et on va aussi avoir... en fait, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Claire, sur le fait que c'est du sur-mesure selon les personnes. Et comme on a un objectif thérapeutique donné, qui colle en général à l'indication de l'équipe, parce qu'on travaille sur indication pluridisciplinaire ou médicale, ça dépend de l'institution dans laquelle on exerce. Et donc, pour vous faire un schéma type de ma journée à l'hôpital, c'est que donc je vais en réunion d'équipe, je reçois une indication de la part de l'équipe pour un patient donné. Et ensuite, je rencontre ce patient, je fais un rapide bilan psychique, moteur, sensoriel. Et puis après, donc j'établis mes séances en fonction de tout ce que j'ai vu. Je réadapte aussi en fonction des goûts du patient. C'est un peu ce que tu disais aussi. C'est vraiment identifier quelle est l'intention sanitaire de la personne. Et moi, plus particulièrement, qu'est-ce qui lui plaît. Parce que ce qui lui plaît, pour moi, ça fait partie justement de la partie saine, donc de ses capacités préservées sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. Et ce qui change, parce qu'en général, quand je dis ça à la plupart des soignants, ils me disent « Ah oui, nous, d'habitude, on est focalisé sur ce qui va pas pour améliorer ce qui va pas. » Et ce qui est très bien, d'ailleurs. Mais nous, en tant qu'art thérapeute, on va avoir un rôle complémentaire et on va mettre en avant tout ce qui fonctionne. Et pour un patient, en fait, c'est assez inestimable parce que... ça me permet de faire une petite transition. Moi, je travaille en soins palliatifs, donc en unité de soins palliatifs. Et la plupart du temps, les patients sont plutôt... une perte d'autonomie assez importante. 90% de mes patients sont alités en général. Et donc, en soins palliatifs, ils se voient plus tout perdre que avoir encore des choses à vivre et des capacités préservées. Et donc, ils voient plus ce prisme négatif de leur personne, avec cette notion de dignité aussi qui peut être impactée. Et donc, en tant qu'art thérapeute, le fait de mettre en avant tout ce qui fonctionne et quand la personne parvient à réaliser quelque chose où elle ne soupçonnait pas déjà avoir des talents artistiques d'une part, mais en plus ne pensait pas pouvoir faire parce que à un membre invalide ou à des difficultés, des tremblements ou que sais-je, c'est son regard qui change sur elle-même. Et puis le regard aussi des proches, de l'entourage qui va changer sur ce patient-là, et également le regard des soignants en fait, parce que parfois il y a des surprises assez étonnantes. Et donc voilà un petit peu comment fonctionne l'art-thérapie. Après, quand on dit art-thérapie, derrière le mot art, c'est tout art confondu. Hein. Donc ça peut aussi bien être art plastique, avec tout ce que ça comprend, dessin, peinture, modelage, sculpture, peut-être de la photographie. Ça peut être de la musique, du chant, du mime, du théâtre, de l'écriture, des contes. Donc après, ça dépend des talents de l'art-thérapeute, je ne cumule pas tout ça. Mais moi, je vais, surtout en soins palliatifs, je travaille avec les arts plastiques. Donc ce qui est intéressant, parce que ça laisse une trace aussi, avec cette idée de laisser quelque chose derrière soi pour les proches qui restent. Donc ça a beaucoup de valeur aussi. Et puis, alors moi, à titre personnel, en tant qu'art-thérapeute, je bosse aussi avec la musique. Mais comme là, dans l'unité dans laquelle je travaille, il y a aussi une musicothérapeute. Donc voilà, donc chacun son métier. Puis il y a suffisamment à faire avec les arts plastiques. Donc voilà. Voilà un petit peu. Et donc je travaille vraiment avec cette équipe. Donc c'est un métier où on n'est pas seul. Ça, c'est important. Donc au-delà du fait de recevoir une indication, moi je fais aussi des comptes rendus dans le dossier du patient et des comptes rendus de vive voix. Et puis j'échange aussi beaucoup avec les psychologues, les médecins, voilà, selon des problématiques données. Et voilà un peu.
Ouais. Et du coup, la question par rapport à justement quand tu dis il y a les tremblements, il y a les incapacités fonctionnelles, il faut que tu adaptes justement ton activité. Ouais. Vraiment.
Alors c'est pour ça, quand effectivement toi tu t'adaptes, la nuance c'est que nous on va pas être dans la rééducation, ça me permet de faire aussi un petit lien par rapport à l'ergothérapie, parce que parfois il peut y avoir, enfin la frontière est très fine, surtout quand l'ergothérapeute utilise l'art, mais mine de rien en fait on n'a pas du tout le même prisme de perception. Et en fait, on va pas chercher la rééducation. Par exemple, quelqu'un qui a, j'en sais rien, un membre droit qui a besoin, un membre supérieur droit qui a besoin d'être rééduqué. Nous, on va pas forcément chercher la rééducation, mais on va faire avec ce qui fonctionne. Donc, on va travailler, par exemple, avec la main gauche.
Ouais, d'accord.
Voilà. Oui. Après, ça dépend. Si c'est l'objectif, l'indication médicale, et si c'est vraiment le souhait du patient, bah, dans ce cas-là, on va travailler avec ça, mais ça va pas être le but premier. Mmh. Moi, en soins palliatifs, le but vraiment premier, ça va être de faire en sorte que le patient ait des gratifications sensorielles. Donc ça passe par la vue, par l'ouïe, par l'odorat même, ou le toucher, parce qu'ils ont un corps qui n'est absolument pas source de plaisir. Et donc ma première porte d'entrée, ça va être de faire en sorte qu'ils aient un peu de plaisir. Et après, cette porte d'entrée, on peut travailler ce qui est de l'ordre de la rééducation, si vraiment ça se pose comme ça. Mais ça ne va pas être notre premier objectif, en tout cas. Voilà. Et donc l'adaptation, oui, c'est sans cesse. Hein. Quand on est art-thérapeute, c'est l'adaptation constante. Parce que c'est aussi bien au niveau des tremblements, mais que des capacités psychiques de la personne. Y en a qui vont verbaliser, d'autres pas. Celles qui ont des troubles cognitifs sévères, on va pas du tout avoir la même attitude. C'est-à-dire que on va avoir des séances qui vont être plutôt directives. Où on va proposer davantage que laisser choisir la personne, puisqu'elle ne sera pas en capacité de choix, ou faiblement en tout cas. Voilà un petit peu. Je
pense que ça répond. Ouais. Et comment tu fais pour pouvoir proposer à la personne ce qui lui plaît? Mais c'est ça, quand il y a la barrière de. Enfin, quand ils ne peuvent pas parler, ou comme tu dis, les troubles cognitifs, je trouve que c'est de trouver l'activité qui va l'accrocher.
Alors en fait, c'est vrai qu'en art, on a quand même quelque chose. Enfin, je pense que vous le vivez tous au quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir tel ou tel vêtement le matin? Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par quelque chose visuellement? Il y a quelque chose qui rayonne, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau d'une texture, au niveau de tout ça. Et en fait, parfois, j'ai eu des personnes comme ça qui avaient des troubles cognitifs assez sévères. Alors après, je pense que y en a qui où c'est vraiment très sévère, et là, je pense que c'est plus complexe de voir ça. Mais il y a quelque chose qui les attire, en fait. Et après, c'est vrai que notre regard d'art-thérapeute, il est de plus en plus aiguisé à la finesse du langage non-verbal. En fait. Donc on va vraiment voir dans une attitude, dans une posture, un regard posé sur telle ou telle chose. On va voir qu'est-ce qui fait écho dans la personne, ou qu'est-ce qui le fait moins. En fait.
Voilà. Observatrice.
Très. C'est pour ça que. Non, non. D'où le métier de photographe, il n'y a pas de hasard.
Et si le patient refuse,
oui.
Est-ce qu'on respecte son refus ou est-ce qu'on insiste un peu ou est-ce qu'on revient à la charge plus tard?
Ça, c'est de l'adaptation, effectivement. Il y a différents types de refus aussi, à mon avis. Typiquement, en soins palliatifs, il y en a qui viennent tout juste d'arriver ou il y en a qui ont peur d'être trop fatigués par cette activité. Donc, alors déjà, je sensibilise beaucoup, je fais des petits tests ou je rassure. Ça dépend des personnes, en fait, on ne va pas se positionner de la même façon. Ça, on le voit, je pense que n'importe quel soignant le perçoit. Mais après, en fait, nous, on a une seule contre-indication en art-thérapie, qui est de taille, c'est que si la personne n'aime pas l'art, eh ben, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Non, mais c'est mine de rien, c'est... on n'y pense pas. Mais...
Faut être sensible.
Non, mais oui, il y en a qui n'aiment pas du tout, en fait, ou qui ont...
Parce que l'art,
c'est vaste, mais figure-toi qu'il y en a qui... Ah non, néon. Donc il y en a qui n'ont pas du tout de sensibilité à ça, ou qui ne vont pas du tout être intéressés, ou qui... Donc là, effectivement, on ne va pas insister. Et puis en fait, d'où l'intérêt d'être en lien avec l'équipe, c'est que parfois l'équipe va me dire, je sais pas, 5 jours plus tard, elle me dit « Ah, bah, tu peux réessayer parce que cette personne n'est pas du tout dans le même état d'esprit, plus ouvert aussi, même dans le soin en général. » Donc là, encore une fois, c'est vrai qu'on s'adapte aussi au fur et à mesure. Mais je force rarement la main. Souvent, je dis, vous pouvez essayer, même si d'un point de vue thérapeutique, c'est douteux. Je le vends comme ça parce que généralement, on se fait souvent une idée d'une chose qui est rarement proche de la réalité. Et le fait de l'expérimenter, en fait, les personnes se rendent compte bien mieux de quoi il s'agit et peuvent poser un choix qui soit négatif ou positif, vraiment en pleine conscience.
Voilà. Donner un exemple d'activité que tu fais par exemple avec une personne
Du modelage par exemple ou du dessin, de la peinture. Tu veux un exemple plus précis ou quelle est l'idée
Non, c'est juste pour me faire une représentation parce que quand moi j'ai une représentation des soins palliatifs, j'ai l'impression d'être un endroit très calme, très paisible où justement on laisse un peu le patient tranquille. Mais je trouve ça génial en fait. Ouais. Je trouve ça trop bien.
Non. Bah, d'ailleurs, il y en a qui n'aiment pas cet aspect tranquille, reposant. Là, j'ai eu deux patients aujourd'hui qui m'ont dit « Ah, mais ça fait vraiment du bien !» Qui peuvent s'investir, parce qu'il y a cette idée-là que tu soulignais très justement, c'est que en fait, le patient, il est acteur de son soin, d'où l'importance de demander l'intention sanitaire de la personne quand elle est en mesure de pouvoir la donner. Et donc là, c'est vraiment cette idée-là en art-thérapie, encore plus en soins palliatifs, où en fait, malgré tous les efforts et toute la tension des soignants, à faire en sorte d'impliquer la personne, le patient est souvent passif dans les soins. Alors qu'en art-thérapie, l'idée, c'est qu'il devient, entre guillemets, artiste, mais il devient créateur, donc il devient vraiment acteur à part entière de son soin. Et ça, ça change pas mal la donne. Et donc après, ça s'intègre très bien aux soins palliatifs, figure-toi, qui n'est pas forcément un lieu où on laisse les patients tranquilles. Au contraire, enfin... Surtout l'art-thérapie en soins palliatifs, l'idée est vraiment de ramener de la vie, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais avoir deux types de patients. Par exemple, ça on va l'évaluer aussi, donc on a des fiches d'observation qui nous permettent de voir comment est-ce qu'on atteint notre objectif ou pas, et est-ce qu'il faut réadapter notre stratégie, que ce soit en termes de moyens utilisés, ou en termes de manière de faire ou de proposer les activités. Et en fait, donc deux types de patients en fin de séance. Je vais avoir certains qui vont me dire ah bah pour la prochaine fois j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Donc ils sont déjà dans une projection positive dans l'avenir, alors que précisément en soins palliatifs avec potentiellement une échéance de vie à court terme, mais qui vont quand même se projeter comme ça. Et d'autres patients qui vont à contrario dire. Où c'est moi qui vais dire « Ah bah, quand est-ce qu'on se revoit ?» Et la personne va me dire « Ah bah, si, je suis toujours là. » Donc vraiment, là, il y a deux extrêmes. Et l'idée en art-thérapie est de ramener un projet, de ramener cette projection dans l'avenir. Pourquoi ? Parce que qui dit projet dit vie, en fait. Parce que beaucoup, certains sont démissionnaires et vont dire « Ah ben, si je suis toujours là » ou... Donc c'est vraiment, ramener un élan vital, quoi, créer une étincelle dans la personne. Donc cette idée de donner envie de guérir, alors dans ce cas-là, non, mais donner envie de vivre, ouais, en soins palliatifs.
T'arriverais à donner une proportion des personnes en soins palliatifs qui sont demandeurs entre guillemets de ça et ceux qui entre guillemets auraient plus envie de se laisser aller quoi.
Non, et puis en fait ça peut fluctuer hein, parce qu'il y en a certains qui arrivent tout juste, tu vois, dans jour d'entrée, ils sont tellement fatigués et puis ils veulent rien. Il y en a même qui demandent la sédation profonde, voire l'euthanasie qu'on ne peut pas faire en France. Et certains parmi ces gens-là, la demande change en fait au fur et à mesure des jours. Et c'est incroyable parce que dès qu'on prend soin d'eux, combien témoignent de l'attention particulière qu'il leur est montrée en soins palliatifs. Encore récemment, une patiente qui est décédée et qui a dit mais un immense merci parce que j'ai jamais ressenti autant d'amour dans ma vie. Enfin, incroyable, incroyable. Et donc l'attitude des gens change. Je pourrais pas te donner de chiffres ou de proportions. J'en ai pas vu beaucoup quand même. Vraiment, j'en ai pas vu beaucoup qui sont démissionnaires. Il y en a quelques-uns, mais.
Oui, tu travailles dans une unité de soins palliatifs privée, est-ce que déjà pour qu'il y ait un art-thérapeute
c'est une politique de la chef de service. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça.
C'est où ?
À Cognac-Gé, à Convention. Hôpital Cognac-Gé. Mais il y en a d'autres en soins palliatifs. Bah là. En fait, parce que je suis à temps partiel dans cette unité-là, et a priori, je vais aussi être embauchée au diaconesse. Donc pareil, parce que là, ils ont plus de lits d'ouvert. Et aussi, cette proportion-là, il y a quand même 36 lits à Cognac-Gé. En soins palliatifs, en général, les unités sont aux alentours de 10 lits maximum. Ouais, 36, c'est énorme. C'est la deuxième après Jeune Garnier, je pense, en temps de lits. Et là, les diaconesses ont ouvert une quinzaine de lits supplémentaires, donc ils sont à 25 lits. Ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup plus de possibilités d'intervention pour des activités comme la mienne, en fait. Parce que c'est ce qu'ils avaient fait aux diaconesses quand ils avaient à peine 10 lits. Ce que me disait la chef de service, c'est qu'effectivement, ils avaient fait venir des intervenants extérieurs, que ce soit des artistes ou autres, mais qui parfois se retrouvaient un peu le bec dans l'eau, parce que dans les 10, ben... Soit il y en avait 5 qui dormaient, 3 qui avaient des visites, enfin j'en sais rien, mais en tout cas ça devenait compliqué en termes d'intervention. Mais effectivement, quand il y a 25 lits ou 36, il y a largement de quoi faire, largement.
Que l'art-thérapie diminue l'intensité des douleurs ?
Oui, alors diminue la sensation de la douleur, effectivement. J'avais fait de l'article... Le début de protocole de recherche que j'avais fait était axé sur les symptômes types rencontrés en soins palliatifs. Enfin, une partie, en fait, il y a une échelle ESAS, qui est une échelle utilisée en Suisse, ouais, à Genève, pour répertorier les symptômes de soins palliatifs. Donc j'avais fait ça sur l'anxiété, la déprime, la tristesse, la douleur, le mal-être et la fatigue. Et en fait, c'est assez... j'avais fait une étude qui évaluait les symptômes avant et juste après séance. Et en fait, il y avait une diminution quasiment systématique des symptômes. Alors après, avec tous les biais que ça comprend dans l'étude, hein, mais néanmoins, c'était assez, assez flagrant, et surtout sur la sensation de la douleur, effectivement, puisque normalement, si je ne me trompe pas, tout ce qui est le circuit de la récompense et dopaminergique va rentrer en concurrence en fait, avec le circuit de la douleur. Et donc voilà. Donc,
et les endorphines.
Ouais, aussi, ouais. Donc, voilà. Donc ouais, on travaille sur les symptômes, on s'en palliatif. C'est une indication. L'anxiété, la douleur, ouais, c'est... Ouais, tout à fait.
Moi, j'avais entendu parler de Cognac-Gé par un prof qui nous a fait des cours de psychologie là, cette année, et il disait que c'était un service absolument génial.
C'est vrai.
Il nous a rendu...
En soins palliatifs.
Ouais. Et il y a une psychologue qui est super à Cognac-Gé.
En toute objectivité, non.
Sûrement. Mais ouais, mais c'est bien.
Voilà.
Et quand tu disais le fait de. C'est que dans le terme patient, rien que dans le terme patient, on est passif quoi.
Ouais.
Et ça leur fait vraiment du bien, le côté les rendre acteurs.
C'est les acteurs.
Ouais, pour rien changer. Parce que finalement, on est quand même acteur de sa santé. Enfin, on... Même si on subit, mais il y a des choses. Mais... On continue.
Ouais, je t'en prie. On a... À toi la suite.
Alors, c'est là que. Ah oui, toi. Du coup, bah, par rapport au lien avec la. Avec ma foi. Moi, en fait, je vais revenir sur le. On allait voir le film Lourdes avec Aude. Une amie qui était aussi dans le soin. Et en voyant le film, je me disais. On voit vraiment les personnes qui sont là et qui sont justement vraiment entourées d'amour. Enfin, on sentait vraiment l'amour qu'il y avait entre les personnes malades et tous les hospitaliers. Et moi, je me disais, moi, c'est vraiment une grâce en fait de travailler tous les jours avec des gens qui sont certes diminués, mais c'est vrai que dans la foi, on se dit que c'est vraiment le Christ qui est en eux, quoi, et qu'on peut servir. Et de plus en plus, je me dis, c'est vraiment une chance de faire un métier où on puisse s'occuper de personnes, s'occuper et recevoir aussi des personnes qui sont plus faibles. Et du coup, enfin, c'est vrai que le fait d'être croyant, ça donne cette chose qui change tout quand même, de savoir que c'est le Christ qui est en eux. Surtout auprès des personnes qui sont justement même au sein des soins palliatifs. Nous, on le voit au niveau des fins de vie, on est SLD. Parfois, même moi, en arrivant dans le service, je me disais, mais quel sens ça a vraiment de rester, enfin vraiment d'avoir tout perdu, quoi. Ils ont tout lâché, quoi. Ils n'ont plus rien de... finalement, après, je me suis rendu compte vraiment que c'était justement la personne qui était maître aussi d'elle et qu'elle avait besoin de ce temps sûrement et que c'était pas encore son heure, quoi. Enfin, que c'était qu'il fallait l'accompagner justement au mieux pour vivre ces moments-là. Donc le fait d'avoir la foi, ça aide beaucoup aussi au niveau de la mort qu'on est confronté tous les jours, pas non plus, mais qui est quand même présente. Et ça donne vraiment une espérance. C'est énorme au niveau, en travaillant avec les personnes âgées, c'est vrai qu'on voit vraiment les choses différemment. Moi, je sais que quand les personnes décèdent, parfois, j'ai pas eu le temps de les voir. Je peux leur dire au revoir vraiment dans la prière. Enfin, je me dis, maintenant, je peux vous parler directement. Vous êtes... je peux vraiment... le Ouais, vraiment, je leur dis au revoir dans la prière souvent. Et puis, pouvoir les porter aussi dans la prière, enfin, les confier... Dans quoi ça m'aide aussi c'est vrai, le fait de savoir que ça c'est le Christ qu'on peut servir à travers eux, ça change toute notre attitude aussi. Enfin, mais ça, c'est à travailler. Hein. À chaque fois, parfois, je me dis, quand j'ai pas le temps, je me dis, faut que je passe. Je vais pas aller, non, je m'arrête. Prendre le temps de s'arrêter, un petit peu parler. Et en fait, cette semaine, là, j'ai pensé, c'est marrant. C'était pareil. J'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Je savais que ça prend un peu de temps, forcément. Et donc, je parle à Monique, c'est une dame qui a une démence évoluée. Et elle attendait, elle attendait quelque chose, je ne savais pas quoi, mais ça me paraissait... souvent, elle est désorientée dans le temps, donc elle a envie d'aller chercher ses enfants. Donc je me dis, bon... Et là, son téléphone sonne dans sa chambre, et donc je lui dis, vous avez le téléphone qui sonne, donc le temps qu'elle y aille, elle ne serait jamais arrivée à temps, donc j'ai décroché, je dis, j'arrive, on l'emmène. Et je me dis, je ne me serais pas arrêtée pour lui parler, j'aurais raté l'appel, et elle n'aurait pas pu la voir, et parfois... Je me dis, ça vaut le coup de perdre du temps, mais en fait, c'est pas du temps perdu. Et parfois, à la fin de ma journée, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de bien? C'est ça qui ressort, en fait. C'est les moments un peu... où on a pris le temps d'être avec les personnes. Je pense qu'au niveau... je sais pas si c'est la foi, je pense que chacun peut le vivre, mais... Le sourire, je pense que je m'en rends compte de plus en plus que ça a vraiment un impact pour rentrer en communication avec les gens. Enfin, même avec les personnes qui n'ont pas la parole. Enfin, je me dis vraiment, quand on arrive dans la chambre et que je leur souris vraiment, bah, elles sont réceptives. Enfin, elles vont même répondre. Enfin, elles vont pouvoir sourire. Et ça, je me dis, c'est vraiment précieux. Et pour le frat, là, du coup, je lisais l'encyclique du pape sur la sainteté. Heureusement que j'ai lu, ça m'a bien aidé. Et du coup, il disait, à un moment, il dit d'être chrétien, c'est joie dans l'Esprit Saint. Et en fait, je me dis, ouais, vraiment, c'est vraiment la source de notre joie. Et en étant près des personnes malades, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apporter, quoi. La joie dans l'Esprit Saint, et le pape il disait bien que c'est justement le fait de. Enfin, il dit heureux, c'était sur les béatitudes, il dit heureux les affligés car ils sont consolés. Il dit si le chrétien il veut. Enfin, il prend sa source dans le Christ et c'est ça qui lui permet de pouvoir s'approcher au plus près de la souffrance des autres parce qu'il sait qu'il va pas. Que ça va pas l'emporter non plus. Enfin, bon, c'est un grand mot, je pense qu'on peut tous. On peut tous aussi fléchir sous le poids aussi. Parfois, c'est difficile de voir la souffrance des gens. Mais ça peut vraiment aider à rester accroché. Qu'est-ce que... Le fait de... Bon, c'est pratique, mais au niveau... dans les services, d'être bien au courant des aumôneries, enfin, des aumôniers qui passent. Je trouve que c'est bien parce que parfois on peut avoir un numéro et puis quand. Bah c'est vrai que c'est difficile de parler de la foi avec les patients. Moi je sais que. Quand ça vient de la personne, oui. Mais c'est vrai que moi j'ai jamais. Quand la personne va en parler, on va pouvoir. On va pouvoir en parler, mais de l'aborder. Je sais pas si c'est trop notre rôle ou pas, je sais pas. Bon. Mais au moins de savoir qui, même dans les dossiers, parfois je regarde, est-ce que les personnes elles sont chrétiennes, souvent c'est marqué la confession, est-ce qu'ils sont pratiquants ou pas dans leur vie. Et parfois quand des personnes qui étaient vraiment en fin de vie, moi je demandais à l'aumônier, il n'y a pas d'aumônier, mais celle qui passait dans les couloirs, je sais qui c'est, je leur dis, si tu veux passer voir un tel, je crois qu'elle était, ça peut être pratique d'être vigilant à ça. Et puis après, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a par rapport aux patients, mais il y a beaucoup par rapport aux collègues aussi. Ça aide d'être croyant parce que, au niveau, je pense que en tant que croyant, on a quand même un devoir d'être des personnes de confiance dans le métier. Et en fait, c'est hyper précieux dans le milieu du travail d'avoir des gens sur qui on peut compter, qui vont pas répéter ce qu'on va confier, qui vont t'écouter aussi. Mais ça, je me disais, en fait, je pense aussi par le scoutisme et quand les phrases qui dit la guide met son honneur à mériter confiance. Et je me rends compte que c'est vraiment un honneur en fait, enfin qu'il faut être vraiment vigilant tous les jours Oui, c'est ça, rien que ne pas mentir déjà, ne pas faire ce qu'on dit, des choses comme faire ce qu'on dit, moi c'est un gros point. Améliorer parfois, j'ai eu tendance à promettre, mais il faut le faire après derrière. Ça peut être vraiment précieux, je pense, pour les autres. Et aussi au niveau des collègues, je pense au niveau de l'espérance qu'on peut porter, enfin le fait d'avoir un regard positif, ça je pense que... Après ça dépend il y a des soignants aussi qui sont vraiment positifs, mais parfois, même quand c'est dans des services difficiles où il n'y a pas forcément les moyens, où ils sont fatigués, parfois... Le fait d'être chrétien, peut-être que ça aide à dire bon, on a une espérance, de ne pas se décourager ou d'encourager les gens. Enfin, je me rends compte que de les valoriser, de dire les qualités. Finalement, il y a peu de valorisation au niveau de la direction, au niveau des salaires. Enfin, parfois, ils disent, mais qu'est-ce que... Une fois, c'était, on était en équipe et on parlait, on évoquait un peu tous les problèmes qui arrivaient. Et on disait, qu'est-ce que si on parlait de, ouais, c'est de la valorisation dans le travail Enfin, ils disaient, ça, c'est encore un truc qu'on n'a pas, quoi. Et du coup, on s'est tous mis à dire, mais non, mais toi, t'es super, parce que, mais non, mais voilà, t'es une infirmière incroyable, ce qu'il dit, toi, t'es toujours là, quand on a besoin. Tout le monde se disait un peu les qualités, et on voyait vraiment que ça reboostait, enfin, ça remotivait vraiment, quoi. Et ça, je pense que, peut-être que... Ouais. Après, c'est des valeurs humaines aussi. c'est des valeurs humaines, mais qu'on peut, en tout cas, on peut le demander aussi dans la prière, quoi, de pouvoir nous aider à grandir là-dedans. Je pense qu'on n'y arrive pas tout seul non plus, mais voilà, pour les choses qui reviendront.
Tu parlais tout à l'heure de savoir perdre du temps avec eux et tu donnais un exemple bien concret qui avait eu sa conséquence. Le pape disait à une rencontre avec les familles d'encourager les parents, spécialement les pères, à jouer avec leurs enfants et il leur disait, n'ayez pas peur de perdre du temps avec vos enfants. Et il pourrait dire la même chose par rapport aux parents. Grands-parents, n'ayez pas peur de perdre du temps avec vos grands-parents, vos parents.
Ouais. Oui.
Si vous savez, non, la portée, la conséquence des petits moments donnés gratuitement.
C'est vraiment ce qui reste, l'impression. Enfin, après, tout le reste est nécessaire aussi, mais. Finalement, c'est là qu'on est peut-être le plus en vérité avec les.
C'est le fantôme des lieux.
D'accord. Et une activité, tu as vu une patiente qui était catholique pratiquante ou qui est paralysée du côté droit, ça pourrait lui apprendre à faire le signe de croix de la main gauche, non?
Ah oui, bah oui, pourquoi pas.
J'étais en train d'imaginer qu'est-ce que vous pourriez imaginer, créer, comme proposer comme activité, voilà, en lien avec la foi.
Ouais, ouais, surtout si on peut en parler et voir que c'est vraiment quelque chose qui est important pour elle. Là, forcément, on va s'appuyer dessus.
Parce qu'il y a peut-être des personnes d'un certain âge qui pensent que voilà, le signe de la croix, c'est
ouais, c'est toujours la main. Ouais.
Sinon.
Ouais.
C'est
traditionnel.
De la main gauche. On a une sœur qui enseigne, là, qui donne des cours de religion aux petits. Quand elle leur montre, je leur montre à l'envers. Alors, c'est vrai qu'elle prend la droite, mais au lieu de faire comme ça, c'est encore autre chose.
C'est à moi de parler, ça.
À toi.
Alors, bah moi, c'est vrai que ce sera teinté du fait que je travaille en soins palliatifs. Mais en fait, depuis... maintenant 2 ans que je travaille en tant qu'art-thérapeute en soins palliatifs. En fait, j'ai déjà constaté ça au bout de la première année, c'est que ça m'a transformé dans mon humanité. Parce que c'est pas un lieu comme les autres. Et c'est un lieu où il y a une densité de vie comme je n'ai vu nulle part ailleurs, paradoxalement. Tout est densifié, autant les moments... de joie, les moments incroyables, les moments de délicatesse, que les moments difficiles de questionnement, de doute, de souffrance. Et ça m'a transformée dans mon humanité parce que Du coup, je pense que c'est mon humanité aussi qui a été densifiée dans l'histoire. Mais ça nécessite une écoute hyper importante et savoir laisser place au silence et savoir laisser place à la personne en tant que telle et ce qu'elle souhaite. Parce que très souvent, c'est un syndrome de pas que de soignant, mais je pense de toute personne qui souhaite venir en aide aux autres, c'est de se dire « Ah ben je sais ce qui est bon pour elle, et donc je vais le lui apporter ». Et ça, on le voit aussi dans le bénévolat, dans le milieu catho, alors qu'en fait, parfois, la personne n'a pas besoin, je pense notamment aux SDF dehors, ils n'ont pas forcément tous envie d'être sortis de la rue, ils n'ont pas forcément tous envie de ça, et parfois, ils ont juste besoin d'être écoutés, juste besoin de discuter, et ça, c'est vraiment... Ouais, quelque chose que j'ai appris et que j'ai acquis aussi dans ma gestuelle. Voilà, laisser place au silence aussi, parce qu'en soins palliatifs, tous n'ont pas une capacité verbale hyper rapide. Et donc parfois, il faut laisser place au silence pour que la personne puisse être elle, en fait, et puisse exister. Donc vraiment, cette dimension du silence est assez importante. Et puis c'est là où Dieu se manifeste, donc ça a quand même pas mal de sens. Et après, l'autre chose, ouais, c'est que moi, la première année, peut-être moins aujourd'hui, mais où c'est peut-être plus ancré dans mon habitude, mais j'avais vraiment le sentiment d'avoir le Christ en face de moi, dans chaque patient. Ça, je pense que c'est une grâce aussi. Et donc de donner un sens plénier à mon métier. C'est pas anodin, bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais et une chose aussi qui me transforme dans ma foi, c'est que avant de rentrer dans une chambre de patients, parce que j'interviens en chambre vu que la plupart de mes patients sont unités, c'est que j'invoque l'Esprit Saint, parce que je ne sais absolument pas qui va y avoir derrière la porte, comment je vais devoir réagir, et à chaque fois c'est vraiment on a un peu cette attitude du funambule, en fait. J'ai eu l'occasion de faire une sculpture il n'y a pas longtemps pour le congrès des soins palliatifs. Et donc j'ai fait un funambule. Pourquoi ? Parce que c'était l'image qui revenait le plus à travers ce que me relataient les soignants avec qui je travaillais, les médecins, etc. Et où en soins palliatifs, on est vraiment sur ce fil de la vie, mais on ne sait jamais quelle attitude avoir, on sait où il faut toujours se repositionner, quelle attitude à la fois intérieure et en même temps. Quoi proposer en termes de traitement ou en termes de prise en charge thérapeutique, comment répondre aux questions, les questions sur la vie, sur la mort, parfois elles sont là, parfois elles ne sont pas là, ça, en tant qu'humain, on peut pas, enfin, moi je ne peux pas y répondre, donc sans l'Esprit Saint je ne pourrais jamais faire ça, jamais faire ce métier en soins palliatifs. Voilà, donc grande proximité à l'Esprit Saint qui du coup grandit chaque jour à chaque patient. Voilà, donc à la fois ce métier qui nourrit ma foi et la foi qui nourrit ce métier. Il y a eu une période là dans les deux dernières années où j'étais en phase spirituelle assez basse et où j'arrivais plus à me ressourcer dans mes temps de prière, j'arrivais plus à avoir une régularité de prière et en fait je me suis sentie épuisée jusqu'à la moelle. Et je n'arrivais plus à être présente aux patients, je n'arrivais plus du tout à avoir cette qualité d'être aux autres que je pouvais avoir auparavant. Donc c'est là où ça m'a mis quand même la puce à l'oreille et où la puce au cœur peut-être, et en me disant la prière est hyper importante. Et en fait, si on n'a pas cet espace de prière dans nos vies, si on n'a pas cette source d'abord, on ne peut absolument pas être présent à l'autre, on ne peut pas se donner à l'autre et on ne peut pas donner Dieu à l'autre. Et donc ça a été aussi une grande leçon, de faire attention à sa prière, même quand ça ne nous paraît pas forcément être la chose la plus... parce que quand il ne reste plus que le sommeil sur lequel on ronge, on dit sommeil ou prière, sommeil ou prière, et on fait sommeil. Et en fait, non, il faut garder la prière. C'est ça, c'est ce que disait Mère Teresa aux sœurs qui l'accompagnaient, qui lui ont dit mais attends, on n'a plus du tout de temps dans notre journée pour dormir. Donc elle a dit, ah bah c'est ça, si vous n'avez plus de temps pour dormir, et bah, vous vous levez une heure plus tôt, puis vous allez prier une heure de plus, vous verrez, c'est encore mieux. Et donc c'est vraiment une... Voilà. une grande leçon.
Bonjour.
Voilà un petit peu sur comment ce métier m'a transformé dans mon humanité et dans ma chrétienté, dans mon rapport à Dieu et dans mon rapport aux autres. Et puis avec les collègues, effectivement, enfin si, je peux parler d'un point que tu as soulevé, Claire, sur le fait de comment est-ce qu'on parle à Dieu ou est-ce qu'on ne parle pas à Dieu, comment est-ce qu'on témoigne. Moi je crois beaucoup au témoignage par les actes. C'est Saint François de Sales qui disait ça, qui disait que ne parle de Dieu que si on te le demande, mais fais, en gros, fais en sorte qu'on te le demande. Je trouve ça très très juste. Et aussi, moi en soins palliatifs par exemple, je ne porte pas ma médaille de baptême. Donc ça a été vraiment un choix au départ. Non pas pour le côté laïcité du lieu, mais surtout pour éviter d'imposer quelque chose à quelqu'un et de le laisser vraiment libre, libre d'être. Et après, voilà, c'est par mes actes, par mes sourires, tu l'as très bien dit, la notion du sourire, je ne peux que acquiescer absolument, ça transforme un visage, ça transforme beaucoup de choses dans la relation. Et donc voilà, donc oui, ça a été... un de mes grands tiraillements au début quand j'ai travaillé en soins palliatifs, c'est de me dire « Ah, j'ai hyper envie de parler de Dieu aux personnes, et je ne peux pas enfin, !» En tout cas, je trouvais ça... Enfin, le positionnement thérapeute fait que, ouais, ben, en fait, on n'est pas là pour parler de Dieu, sauf si, effectivement, on nous le demande, et dans ces cas-là, moi, j'ai aucune difficulté à me positionner là-dessus. Mais après, voilà, on s'adapte... Enfin, chaque soignant... se tient à son cadre qu'il s'est fixé et qu'il a choisi aussi. Mais voilà, donc mon témoignage, ma foi, passe aussi par mon métier et par l'écoute aux autres et par tout ce que j'ai dit précédemment. Et le fait de prier pour eux, dans ce que tu disais, voilà, quand les patients décèdent, il y a quand même une grande proximité, communion des saints. Et donc ça, c'est aussi très précieux. Et puis même dans la prière de tous les jours, évidemment. Je prie pour mes patients et ça c'est voilà, c'est ce petit lien là que j'ai avec eux à défaut de pouvoir leur parler et de leur transmettre l'amour de Dieu. Bon, certains ils seraient complètement hermétiques, mais d'autres je pense seraient très enclins. Et en même temps ça passe par voilà, toutes les petites gouttes d'eau dans l'océan que nous sommes en tant que soignants et ce que je vous disais tout à l'heure, cette patiente qui a dit mais j'ai jamais reçu autant d'amour, c'est parce que, et ce que disait ma chef de service, en fait, c'est passé par chacun d'entre nous, par les petits gestes qu'on a eus, les sourires, les attentions, les mots. Voilà. Voilà, voilà. Et puis les collègues, oui. Les collègues, ça c'est du témoignage, je pense que c'est pas spécifique au fait d'être soignant en ce qui me concerne, mais. Ouais. Mais. Ouais. Pas avoir peur de parler de ce qu'on fait, de qui on est et de notre foi. Voilà.
C'est ce que, en fait, c'est vrai que le fait de raconter ces week-ends, enfin, je me suis rendu compte que soit je me disais, mais j'arrive pas à parler de ma foi avec mes collègues. Quoi. Et je me disais, c'est dommage. Enfin, bref, est-ce que c'est parce que je témoigne pas assez ou... Je sais pas. Et en fait, les week-ends, c'est pas mal. Parce que soit on fait, bah, par exemple, même quand on fait un concert ou le fait d'être allé au frat. Mais après, si t'as fait quoi ce week-end, bah forcément tu vas dire quoi. Et, ah bon, mais tu fais quoi donc, après, on en parle plus. Et pour le frat, c'est vraiment, je parlais à midi avec un collègue et il me disait, ah bon, mais ça existe ça, 10 000 jeunes, mais t'es là, mais pourquoi on n'en parle pas et tout, personne ne le sait. Et alors, du coup, j'ai montré une petite vidéo et il dit, ah, mais il y a un Africain sur scène et tout. Mais c'est bien la diversité, j'ai dit, oh, tu verrais, il y en a plein. Enfin, il avait une image de l'église vraiment un peu très conservatrice et fermée quoi, sur soi. Je dis, mais non, mais justement, enfin, regarde ce que le pape dit, c'est l'inverse. Et ouais, bon, je trouve que c'est pratique. Ouais. Les concerts, là, enfin, du coup, on fait partie d'une chorale missionnaire. Et c'est le chef, je le... quand même. du coup, tu nous avais demandé d'inviter au moins une personne loin de l'église. Et il y en a pas mal qui ont invité des collègues. Et je crois que ça a fait des belles choses. Ouais. Parce que finalement, on est quand même tout le temps avec eux. Enfin, c'est des gens qui passent beaucoup de temps avec les collègues. Donc c'est génial d'avoir de pouvoir proposer quelque chose de concret quoi.
faudrait pas qu'en les retrouvant là-haut, ils nous disent...
Oui, tu nous avais pas dit.
C'était catholique, on a passé, on était collègues pendant 20 ans. Et tu m'avais fermé, tu m'as dit un seul mot sur ta foi. Et voilà, ça peut passer par tellement de manières. Tu disais, alors que toi t'abordais pas bien sûr le sujet, mais parfois c'est venu de la part de...
C'est venu qu'une seule fois de la part d'un patient. Ouais.
Et c'était quoi?
Après, il y a beaucoup de choses aussi en soins palliatifs. Il y a quand même y a les bénévoles de l'aumônerie, il y a le prêtre. Enfin, ça leur est proposé. C'est un peu le package d'entrée en soins palliatifs. Ça fait voilà. Ça c'est vrai que. C'était quoi la question?
C'est le moment jamais d'aborder.
Ouais. Oui, tout à fait. Et ça m'est arrivé qu'une seule fois effectivement. Donc.
Puisque c'est quand même impressionnant que tu invoques l'Esprit Saint avant d'entrer dans...
Ah oui, je me sens tellement démunie.
Et t'as jamais senti poussé à dire un jour à l'un d'eux, je prie pour vous, Pas dans un cas...
Non, il n'y a pas eu cette... Non, il n'y a pas eu cette nécessité ou cette opportunité ou... Non, parce que je l'incarne, je pense vraiment dans mes gestes, ce qui fait que... Non, il n'y a pas eu. Peut-être, plus tard.
Parce que parfois, même des personnes non-croyantes te remercient quand tu dis ça.
Particulièrement les personnes musulmanes, ou qui ont une foi qui fait vraiment partie d'elles. Ça, si tu regardes dans leur dossier qu'effectivement, ils sont croyants... ça trouve un bon écho.
Et parce qu'ils te peignent les mots, enfin les sujets.
Comment?
Ça pourrait venir aussi, tu les... Il y en a qui peignent.
Oui, effectivement, il y a des choses... Alors, en fait, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais en art thérapie, en fait, il n'y a pas forcément de but productif de réalisation. Parfois, je peux faire des séances uniquement sensorielles avec cette idée de travailler sur la diminution de la sensation de la douleur, par exemple, ou de l'anxiété. Donc là, il n'y aura pas de but productif derrière. Mais effectivement, dans le cas des personnes qui peuvent réaliser quelque chose, ça s'est trouvé effectivement d'avoir des réalisations qui avaient énormément de sens, notamment une patiente, je pense à ça, mais... qui avait voulu faire une croix scout en argile parce que ça lui rappelait son enfance, etc. Enfin, donc, il y avait aussi une dimension là-dedans très spirituelle. Un autre patient, parce que parfois je propose des séances individuelles, mais aussi parfois avec un proche, un membre de l'entourage, et notamment un couple. Donc c'était la femme qui était malade et lui qui était présent, et relation. Très équilibré dans la prise en charge thérapeutique, et en fait lui avait proposé des idées, donc c'était intéressant parce qu'il a proposé à sa femme de réaliser une stupa, qui en fait dans la tradition bouddhiste est une chambre funéraire, et donc voilà, je pense qu'il n'y avait pas trop de hasard au fait qu'il propose ça. Même si nous, en tant qu'art thérapeute, on ne va pas interpréter et analyser comme les psychologues. Et en fait, elle avait travaillé là-dessus. Donc il y avait vraiment une dimension spirituelle. Après, ils l'ont pas verbalisé, ils n'ont pas beaucoup plus parlé autour de ça. Mais en fait, l'objet se suffit en tant que tel aussi pour incarner des ressentis ou pour extérioriser des choses ou accomplir ou finir des choses.
Ouais. Avec l'entourage, ça doit être marquant. Ouais, est-ce que ça peut faire ressortir ou évoquer ou...
Oui, c'est pas toujours simple. Donc, ça dépend. Il y a des situations où après je dis non. Enfin, en général, je fais plutôt des séances individuelles, mais après, encore une fois, c'est du feeling. Hein. C'est vraiment. Faut voir. Parce que j'ai eu des séances aussi avec. C'était très intéressant d'ailleurs pendant ce protocole de recherche où en fait il y avait notamment donc une patiente qui avait moins d'une quarantaine d'années, il y avait sa maman qui était présente. Et là, ça a fait exploser mes échelles de symptômes à la fin de la séance. Donc, j'étais intéressant. D'habitude, ça descend, ça diminue. Et en fait, c'est après, quand on a le retour verbal aussi, c'est que parfois, c'est très complexe parce qu'il y a des liens de culpabilité. Mmh. Là, en l'occurrence, la mère qui culpabilisait pour sa fille de ne pas être assez présente. Mmh. Puis la fille qui se disait « Ah, mais je dois me montrer forte pour ma mère. » Et en fait, du coup, ça avait complètement biaisé la séance. Et moi, je l'avais ressenti en séance. Mmh. Une autre situation aussi, un couple où le mari était hyper directif et en fait avait un peu une emprise pas forcément toujours bonne sur sa femme, et ça s'était ressenti également en séance, pareil avec les échelles de symptômes qui avaient explosé. Enfin, donc c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment une corrélation entre ce que moi j'observais de mes propres yeux et mes ressentis et avec ce qui était évalué par le patient en fin de séance. Donc ça dépend. Parfois ça marche bien, parfois non.
Est-ce que tu les laisses continuer leurs œuvres s'ils veulent Ils peuvent continuer seuls dans leur chambre ou...
Oui, alors c'est ce qu'on appelle en art-thérapie un programme d'accompagnement de soins, en fait parfois. Donc je le fais pas pour tout le monde, mais pour ceux pour qui ça me paraît adapté, c'est qu'il y a des suivis entre séances. Enfin, ou des propositions de choses à faire entre séances qui permettent de vraiment de... consolider ce qui est fait en séance et de le rendre pérenne. Donc parfois, oui, il y a certaines versions où je vais leur laisser du matériel parce que ça paraît très opportun. Ouais.
On va peut-être continuer tout en faisant passer. Vous avez peut-être envie de nous chanter quelque chose?
Non. J'ai trop chanté.
Pour la fin.
Il faut une soprane.
Ah oui, j'avoue.
Ah oui, vous êtes chorale. C'est dans la même chorale là.
Tu veux qu'on se mette deux là?
Je sais pas, c'est un là, je sais pas.
C'est un là?
Je pense. C'est un là ça?
C'est en dessous.
Mais t'as l'oreille à salir ?
Non, mais j'ai une bonne oreille.
Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour.